va te montrer un secret. Notre secret.
C'est quoi tout ça?
Une radio.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On fait une émission tous les jours.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Et aujourd'hui, tu vas en être la vedette principale.
Extrait des Intrépides, c'est la série où vous avez commencé, Laurent Deutsch. Vous faisiez de la radio.
Il y a 30 ans.
Mais oui, c'est génial.
Je suis certain que parmi vous, il y a eu quelques vocations qui
sont
nées.
Eh bien, François Touchard, notre réalisateur, il fait de la radio grâce à vous et cette série.
C'est vrai de vrai.
C'est vrai ?
Ouais. Je regardais avec Jessica Barker et vous-même la série Les Intrépides et les nouvelles aventures des Intrépides. Je suis devenu fan de radio à cause de vous.
Ah bah écoutez, je suis très fier.
Et c'est grâce à vous qu'on a un formidable réalisateur.
Et j'allais le dire, elle est particulièrement bien réalisée. Donc on sent que les inspirations ont été les bonnes.
On est venu ici pas pour parler de radio, mais pour parler dans la radio et de l'UTES. C'est l'ancêtre de Paris, Laurent Deutsch. Vous l'adorez, vous arpentez cette ville historique. On va commencer par, allez, la toute première question, c'est la première pierre. Quand est-ce que l'UTES voit le jour ?
Oh, c'est une question compliquée parce qu'en plus, les recherches nous importent des nouveautés, des vérifications. Et vous savez, c'est ce que disait Popper, la science est un mensonge en sursis. Quoi. Donc, y a toujours
c'est un historien
des... c'est un grand scientifique qui a créé un mouvement qui s'appelait le falsificationnisme, à savoir que la science dure jusqu'à ce qu'elle soit contredite. Quoi. Oui. Donc en quelque sorte, elle n'est jamais acquise. Il faut à chaque fois entrecroiser, vérifier, continuer à sourcer et à chercher pour asseoir un savoir ou l'infirmer.
Et pourquoi on dit 40 ans avant notre ère, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Ce qui est certain en tout cas, c'est que la Paris que nous connaissons, à l'endroit que nous connaissons, est née véritablement après la conquête de Jules César, donc après les années moins 50, donc entre... En gros, Paris est né en même temps que Jésus-Christ. C'est facile à retenir. Paris est né en même temps que Jésus-Christ, et la première pierre, pour l'instant en tout cas, on peut se douter, puisque Paris va vraiment être... La Paris qu'on connaît est une ville romaine, de création romaine. Elle va être créée à la romaine, avec un système orthonormé, donc un système en croix latine, avec un axe majeur, nord-sud, qu'on appelle le Cardo Maximus.
C'est une rue ? C'est une route ?
Oui, c'est la rue Saint-Jacques.
D'accord.
C'est la rue Saint-Jacques à Paris.
Ouais.
Et un axe est-ouest, alors il y a des débats pour savoir s'il est du côté de la rue des Écoles ou de la rue Soufflot. Jusqu'à présent, on penche pour la rue Soufflot, mais c'est en train de bouger vers la rue des Écoles, donc un peu plus bas vers la Seine. Donc la première pierre, elle va être posée là où les architectes romains vont poser leur gros mât, là, donc leur instrument de mesure pour la positionner, pour la régler au point zéro de Paris, donc à l'intersection de ce Cardo Maximus et d'Écumanus, à savoir au 172 de la rue Saint-Jacques, à l'angle de la rue Soufflot.
Et on voit quoi ? Est-ce qu'il y a des vestiges de cette première pierre ou de ces premières pierres de l'UTES?
Non, alors de cette première pierre qui daterait à peu près de l'époque de Tibère, il n'y a pas de vestiges, mais il y a quand même des vestiges romains. Quand on gratte, quand on fouille, il y a plein de choses qui datent des tout premiers temps de la l'UTES romaine. Et pour moi, le plus beau monument des origines, c'est un monument métis qui va être le monument qui est à la rencontre entre la culture gauloise et la culture romaine, qui vient s'installer et qui va transformer les Gaulois en gallo-romains. C'est le pilier des Nôtres, qui a été retrouvé sous Notre-Dame et qui est un pilier dédié au grand dieu à la fois gaulois et romain, donc s'entremêle dans un beau mariage, Vulcain, Jupiter, mais aussi Cernos et Zeus, les dieux gaulois. Voilà, c'est le métissage qui est en marche et ça date des tout premiers temps, ça date de l'an 14, je crois, de notre ère, c'est l'empereur Tibère.
Ça ressemble à quoi, ce pilier des Nôtres?
C'est une colonne.
Une colonne.
Vous pouvez la voir, elle est au musée Cluny aujourd'hui.
Ouais.
Et d'ailleurs, il y a un comité qui milite parce qu'on aimerait bien, sur le parvis de Notre-Dame, en faire un moulage, en montrer un petit peu une copie pour voir à quoi il ressemblait, parce que c'est vraiment notre premier monument.
Laurent Deutsch, pourquoi les Romains décident de s'installer comme ça? Ils ont de l'espace quand même sur leur grand empire et ils décident de s'installer près de la Seine pour créer cette ville.
Alors,
qui était destinée à être quoi? Une future capitale? Ou qui était la capitale?
Non, pas du tout. D'ailleurs, Paris va mettre du temps à rentrer dans la grande histoire. Paris va rentrer dans la grande histoire au 4e siècle avec un des seuls empereurs couronnés à Paris. Il y aura Napoléon à Notre-Dame, mais il y aura eu aussi Julien, l'empereur Julien qui va être couronné dans les années 360 parce qu'il va résister aux envahisseurs. Mais au départ, Paris, c'est une petite bourgade de province. C'est beaucoup moins important que des villes voisines comme Meaux, Melun ou Sens. Donc d'ailleurs, quand on va voir le réseau des routes, parce que les Romains sont réputés pour leur réseau routier, le fameux réseau d'Agrippa qui date du premier siècle après Jésus-Christ, eh bien, les grandes routes qui conduisent de Rome au nord-ouest, vers l'Angleterre, vers Boulogne-sur-Mer, ça passe pas par Paris. Ça passe par Meaux. Ah non, durant l'Antiquité, Anne Hidalgo, elle a aucun pouvoir. C'est Jean-François Copé, le balèze de l'époque.
Bah d'ailleurs, on circule comment dans la l'UTES de de l'époque ?
Bah, on circule d'abord
comme
avec.
Il y a des embouteillages.
Déjà des embouteillages. Les Gaulois, on leur doit. Ils ont dit qu'ils ont inventé la roue, c'est un petit peu leur donner trop d'importance, mais c'est vrai qu'ils ont inventé des modes de locomotion comme la charrue, le char, qu'on appelle car en gaulois, d'où en voiture, ouais. D'où en anglais, le mot car. Ils circulent aussi en benne, la benna, donc tout un tas de chariots. Et bien sûr, avant tout, parce que la ville est née du fleuve, on circule sur la Seine avec des bateaux, avec des barques, des pirogues, le plus souvent avec un système de halage. Il n'y avait pas des voiles parce que c'était évidemment pas très précis, donc ils allaient se cogner dans les berges. Donc il y avait des halages, des chevaux, un chemin de halage qui les remorquait. C'était des remorqueurs, voilà. Et on se baladait avant tout sur la Seine. La ville est née du fleuve.
C'est grand comment Lutèce ? Alors évidemment, au tout début, c'est rien, mais c'est par rapport à la ville d'aujourd'hui.
C'est petit, ouais. Paris, c'est petit. Paris, avant les Romains, on ne sait pas trop où elle est. Il y a un débat qui la situe tantôt à Nanterre, tantôt déjà sur l'île de la Cité, tantôt vers Ivry. Ce qui est certain, c'est qu'avec les Gaulois, Paris est le long du fleuve, donc ça peut bouger. L'oppidum gaulois peut bouger en fonction des crues, des choses comme ça. Elle n'est pas vraiment fixée. Elle se fixe à Paris d'abord sur la rive gauche. Entre, comme je l'ai dit, donc sur cet axe, ce Cardo Maximus, la rue Saint-Jacques, et le Décumène, rue Soufflot ou rue des Écoles. C'est sur les pentes de la montagne Sainte-Geneviève. Pas trop près du fleuve, parce qu'il y a des crues. Le fleuve est évidemment sauvage, mal maîtrisé, donc on va pas trop se mettre près du fleuve qui peut emporter les maisons. On va se mettre à mi-hauteur, en gros. À mi-hauteur sur les pentes de la montagne Sainte-Geneviève.
Laurent Deutsch, c'est passionnant avec vous. On découvre vraiment cette vie quotidienne.
Mais oui, c'est passionnant. Passionnant.
C'est pas une surprise, c'est pas un scoop. Hein. C'était comment les habitations des gallo-romains dans la ville Lutèce, des petits immeubles? Des maisons.
Il y avait des villae, alors il y avait des petites villas individuelles, etc. Mais la plupart du temps, il y avait des immeubles comme Paris, c'est-à-dire il y avait ce qu'on appelait des insulas, qui étaient des lotissements. D'ailleurs, le mot lotir, isolé, ça vient un petit peu de la même racine latine. Ce petit lotissement autonome regroupait plusieurs appartements de location dans les étages supérieurs. Ouais. Ouais, il y avait 2-3 étages. Ouais. En bas, comme pas Paris, il y avait un commerce, des galeries avec des commerces, des artisans, etc. Et plus on montait dans les étages, et au premier étage, il y avait les artisans, généralement dépendants à ce commerce. Et ensuite, ça montait. Et plus on était en haut, plus on était pauvre. Comme au Paris d'aujourd'hui, ou en tout cas à l'époque d'Haussmann, où vraiment, il y a une hiérarchisation de la manière d'habiter les immeubles parisiens.
Il est intolérable que des barbares moustachus viennent compromettre les plans de César.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Non, Junon, mais où est-ce qu'ils se croient ?
RTL.
Ils se croient chez eux. C'est bien le problème.
Non, mais c'est vrai que j'ai de la chance d'habiter à Lutèce.
La curiosité est un vilain défaut.
Goudurix, c'est le matin, on se lève tôt à la campagne.
Ouais, mais moi je viens de Lutèce. Et à Lutèce, c'est l'heure à laquelle on se couche. Alors maintenant, foutez-moi la paix, les blaireaux, je bougerai pas de ce lit.
Ah ! Désolé, c'est un moment de faiblesse, c'est très humain.
Extrait de plusieurs Astérix dans les adaptations cinéma. Vous avez joué dans Astérix et le domaine des dieux, Laurent.
Ouais, en dessin animé, moi j'ai prêté ma voix au personnage d'Anglégus et aussi dans Astérix et les Vikings. Je faisais Goudurix, mais pas le Goudurix de Vincent Lacoste, le Goudurix en dessin animé. Je faisais la voix de Goudurix avec Astérix et les Vikings.
Et Anglégus, c'était un architecte, c'est ça ?
Oui, c'était l'architecte qui va construire le domaine des dieux pour César, qui est irrésistible dans la version réalisée par Alexandre Astier.
Ouais, effectivement. On est avec Laurent Deutsch, vous l'avez compris, sur RTL dans la curiosité, pour découvrir Lutèce, pour découvrir Paris à l'époque gallo-romaine. C'est en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui hors série. Si on était là, nous, baladés dans le temps, transportés là-bas, la première sensation, ce serait quoi ? Ce serait l'odeur, peut-être, qui nous frapperait ?
Je pense que la première sensation, évidemment, ce serait l'image d'une ville très grouillante, où les gens sont toujours dehors, sont dehors, où la vie se fait non pas à l'intérieur, l'espace public est rempli. Et d'ailleurs, c'est presque antinomique avec la ville de Paris aujourd'hui, qui a un gros problème d'espace public. Je me désole de voir à quel point tout est de plus en plus cloisonné par des digicodes, par des portes cochères qui sont fermées avec 1, 2, 3 codes d'accès, etc. À l'époque, c'était pas du tout ça, quoi. Tout était ouvert. C'était méditerranéen, quoi. Ça vivait dehors.
Et c'était quoi les lieux, justement, les lieux indispensables, les incontournables d'une ville romaine? Lutèce, il y avait quoi comme monument, comme espace?
Et c'est vrai que c'est souvent ce qui va différencier la ville romaine d'une ville gauloise. C'est-à-dire que la ville gauloise va avoir des centres administratifs, bien sûr, mais ce sont des endroits plus ou moins mobiles, fluctuants, où on ne va pas installer pour de bon des réseaux, par exemple des canalisations d'eau. L'eau, c'est très important et c'est typique des Romains. C'est l'arrivée des aqueducs, donc d'une eau saine. La Seine, à l'époque, donc le fleuve de Paris, était réputé pour être très boueux, très sale, déjà. Et donc, on va préféré faire venir des sources en amont, du côté de Rungis, du côté de Vissou, à entre 15 et 20 km, et on va faire venir des aqueducs. Et ça, c'est propre aux Romains.
Ça fonctionne, ouais.
Bah, ça fonctionne avec un système de pente. C'est
avec
une pente.
La gravité, quoi.
Oui, c'est la gravité. Ouais. Donc, c'est une colline, déjà. Rungis, on a la chance d'être un peu en hauteur. Et il y a un dénivelé, en gros, je crois, c'est de 56 cm tous les kilomètres. Je suis pas super précis, mais en gros, c'est ça. Et ça arrive jusqu'à Paris. Il y a des égouts aussi. Les égouts. Alors, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que l'aqueduc qui amène l'eau, c'est en gros le long de la rue Saint-Jacques. Et les égouts qui charrient l'eau pour aller vers la Seine et débarrasser l'eau putride des Parisiens, c'est le boulevard Saint-Michel. Vous voyez, là où il va y avoir ce qu'on va appeler la Via Inférieure. Donc, il va être le deuxième quart d'eau, non pas majeur, mais mineur, le boulevard Saint-Michel. Et là, il y aura les égouts qui vont vers la Seine.
Et donc, ces lieux importants, si Denis commençait à l'aborder tout à l'heure,
le forum
et les termes. On va parler des deux. Forum d'abord.
Allez-y. Les termes pour l'hygiène et le forum où qui centralise toute la vie des Romains, gallo-romains. C'est-à-dire que c'est là où vous allez avoir le pouvoir spirituel avec le temple principal, donc pour célébrer les dieux. Mmh. Vous allez avoir ce qu'on appelle la basilique, qui n'est pas religieuse à l'époque. C'est un monument civil qui sert de tribunal, de tribunal de chambre du commerce. C'est là où on fait les échanges, c'est la bourse. Voilà, c'est vraiment le lieu de l'administration où tout se règle, les litiges et les choses comme ça. Et puis surtout, c'est là où on fait nos courses. C'est-à-dire que le forum, il est bâti sur ce qu'on appelle un crypto-portique. Et le crypto-portique, c'est les galeries, quoi. C'est le forum des halles, quoi. C'est là où vous achetez tout ce que vous voulez. Du vin, des huiles, de la bouffe. Ah, tout le temps, ouais, c'est ouvert. C'est ouvert toute la journée.
C'était où ? Il était où, ce forum ?
Alors, le forum, il était en plein centre de la ville de Lutèce. Donc, il était du côté de la rue Soufflot, avec le boulevard Saint-Michel d'un côté, et la rue Cujas, rue Valette de l'autre, il était là. C'était un gros quadrilatère dont on voit les ultimes traces dans le parking. Si vous descendez dans le parking qui est au niveau du 60 boulevard Saint-Michel, eh bien, dans l'escalier, vous allez avoir un morceau du mur de soutènement du cryptoportique du vieux forum parisien qui a eu tellement d'importance durant l'Antiquité.
Et à côté de ce forum, évidemment, des toilettes publiques.
Et des latrines.
Des latrines.
Alors, les plus célèbres, ça c'est marrant, c'est un historien qui m'a dit ça. On allait dans les latrines parce que c'était des latrines comme on l'imagine. Hein, c'était on s'asseyait. Et d'ailleurs, c'était mutualisé. C'est-à-dire qu'il y avait des rangées de trous où on s'asseyait pour faire
pas
ses besoins.
Pudeur,
et les plus célèbres étaient celles des thermes du Sud qui étaient à l'angle de la rue Gay-Lussac et de la rue Claude Bernard. Et ceux-là, ils étaient donc vraiment très réputés. Alors, je sais pas qui
discutait en même temps, c'était un lieu social.
C'était très bien, on perdait pas de temps.
Et les femmes aussi, elles pouvaient utiliser ces latrines ?
Ah, tout le monde, ouais, c'était mixte.
Ah, oui.
Enfin,
c'était mixte.
Peut-être pas en même temps, mais en tout cas, si, mais je crois même qu'on y allait. Bon, après. Les thermes n'étaient pas mixtes. Les thermes, par contre, c'était réservé aux femmes, je crois, le matin et aux hommes l'après-midi.
Mais il y en avait beaucoup dans cette ville de Paris, dans Lutèce.
Il y en avait sur la rive gauche au moins trois. Ouais. Les thermes du Nord qui sont devenus donc le musée de Cluny, dont les vestiges sont les plus impressionnants. Il y avait les thermes du Sud avec ces fameuses latrines qui étaient donc vers la rue Gay-Lussac. Et il y avait les thermes de l'Est qui se retrouvaient sous le Collège de France et dont un vestige a été préservé un peu plus loin dans une rue qui s'appelle la rue de l'Anneau, un célèbre restaurant qui s'appelle le Coupe-Chou. Et si vous êtes sympa avec Monsieur Azopardi, enfin, je crois que malheureusement Monsieur Azopardi est mort, mais enfin, il y a encore son associé qui est là. Mmh. Eh bien, il peut vous faire visiter dans sa cave. Il a un mur des thermes de l'Est. C'est une des plus vieilles caves de Paris, du coup.
Alors, Laurent Deutsch, on entre avec vous, on enlève la toge, on entre avec vous dans les thermes de Cluny.
Non, mais on peut pas y aller ensemble. Je suis désolé, c'est pas possible.
Bon, alors, je laisse avec Thomas. Ouais,
allez,
on
va tous les deux.
Vous me raconterez. Je
vais vous faire un grand voyage.
Qu'est-ce qui se passe dans ces thermes ? On y fait quoi ? Ça ressemble à quoi ?
Eh ben, il y a un parcours. Les thermes, il y a un parcours. Ah oui, on fait pas. Il y a une chronologie d'événements à respecter. D'abord, si on veut, on peut s'échauffer. On fait un peu de sport.
Oui,
c'est une salle, il y a de la muscu, on peut faire des trucs. Ensuite, on passe au vestiaire pour se déshabiller, parce qu'on doit être nu.
Est-ce que moi, j'ai enlevé ma toge à l'entrée, mais non,
on
attend.
Mais c'était le matin, on n'a pas pu y assister, donc c'était un gâchis, quoi. On n'a rien vu, nous.
Donc on y va totalement nu.
On y va nu.
Ah, oui.
Et on commence par une salle tiède, d'eau tiède, pour s'habituer un peu à la chaleur qui va monter. Parce que juste après, on passe dans les salles d'eau chaude, tantôt dans un bain, tantôt à un sauna, avec le système de chauffage qui était un système dit par hypocauste, par le sol, avec des briquettes qu'on chauffait, etc. Ça faisait tout chauffer. C'était très, très, très chaud. Ça a dépassé les 50 degrés. Ensuite, après la salle chaude,
Il y avait un bain d'eau froide, non ? Je sais pas, pour quelle
raison. D'abord, on se lavait. Une fois, on se nettoyait avec du savon, on se lavait. Les peaux avaient été, avec la chaleur, évidemment, les dilatées, donc on pouvait tout nettoyer. Et après, on allait à nouveau dans la salle chaude, si on voulait, soit dans la salle froide, direct. Mais pas moi, je suis parti après.
Un petit village sur l'île de la Cité, c'est ainsi que les meilleurs auteurs ont toujours imaginé la Lutèce des premiers âges, berceau du génie gaulois. RTL. Aujourd'hui, un chercheur met en doute cette vision idyllique. Paris serait une ville romaine.
La curiosité.
Jules César parle bien d'une Lutèce gauloise sur une île.
Est un vilain défaut.
Mais en 2000 ans, la Seine a fait des siennes.
Bienvenue dans les ruelles de Lutèce, l'ancêtre de Paris. C'est Laurent Deutsch qui nous offre la visite. C'est vrai qu'elle est double, cette ville de Lutèce. Il y a les Gaulois et les Romains. En fait, ils ont vécu côte à côte sur deux espaces différents.
Non, ils se sont très vite mélangés. La romanisation de la Gaule, évidemment, qu'elle ne se fait pas du jour au lendemain, brutalement, avec la conquête de Jules César. C'est progressif. Donc, dans un premier temps, il y a d'abord ceux qui ont intérêt à profiter de ces nouveaux leaders d'opinion qui vont être les Romains. Donc, les chefs qui veulent du pouvoir et les marchands qui veulent faire du pognon. Très très vite, eux, ils vont se latiniser très très vite. Ouais. C'est en gros le petit peuple qui est en marge du pouvoir et des échanges, qui lui va plutôt être moins concerné, plus réfractaire, et refuser jusqu'au bout, le plus tard possible, la latinisation, la romanisation. Ça viendra avec la religion catholique et chrétienne au 4e siècle.
Est-ce qu'on peut facilement faire la différence ? C'est-à-dire, visuellement, ils ne s'habillaient pas pareil, les Romains et les Gaulois, dans ce Lutèce des premiers temps ?
Alors, de toute façon, ils ne parlaient pas la même langue. Ceux qui étaient vraiment... Il y avait trois langues, mais qui cohabitaient plus ou moins heureusement. Ça, après, je ne sais pas, faut demander des spécialistes. Il y avait donc le latin, le celte, et puis il y avait un gallo-romain déjà.
Ah, oui.
Il y avait déjà une espèce de latin dégénéré qui avait des accents parisis, qui commençait à avoir des... Où on simplifiait les choses. Parce qu'il ne faut pas se dire que le latin, il était pur. Ce n'est pas le latin de Sénèque et de Virgile et Cicéron à Paris. Quoi. C'est le latin qui est parlé, ce n'est pas celui des militaires, ce n'est pas celui des commerçants. Ouais. Voilà, ça bouge, ça évolue, c'est dynamique. D'ailleurs, notre langue française est un latin dégénéré qui est passé par le roman.
Et on ne s'habillait pas pareil.
Et on ne s'habillait pas pareil. Les Romains, c'est vrai, avaient tendance à s'habiller à la romaine, comme on les imagine, avec des toges, avec des drapés, etc. Alors que les Gaulois étaient très colorés, de manière. Ils s'habillaient un peu comme chez Avatar. Hein. C'était des couleurs très criardes. Et surtout, ils avaient des pantalons, ce qu'on appelait des braies à l'époque. Donc eux, ils avaient des pantalons, ce qui n'était pas du tout la coutume romaine.
Laurent Deutsch, c'est quoi l'étymologie du mot Lutèce ? Ça veut dire quoi ?
Comme pour toutes les étymologies, il y en a 12 000, mais en gros, ça, puisque pour moi, ce que j'entendais tout à l'heure dans la petite illustration, je suis assez d'accord avec la personne qui dit que pour moi, Paris est une ville romaine, eh bien, donc rendons à César ce qui appartient à César, et Lutèce remonterait au mot latin romain lut, qui est le marais. Et d'ailleurs en gaulois, loug, c'est la boue, donc c'est pas loin, hein, le romain et le latin, le celte et le latin ont une origine commune, hein, une langue indo-européenne, donc voilà, pour l'étymologie elle est là, quoi, vers les marais.
Et puisqu'il y a des marais, et puisqu'il y a la Seine, et puisqu'il y a de l'eau, il faut se déplacer sur l'eau. Alors c'est quoi cette histoire de pirogue on a retrouvé plusieurs pirogues lors de différents chantiers, c'est ça?
Ouais, d'ailleurs on en avait retrouvé aussi, on en a retrouvé donc récemment, je crois, au Quai Branly.
Au Quai Branly,
mais il y en avait déjà qui avaient été retrouvés, hein, c'est les fameuses, d'ailleurs il y a une rue à Paris qui s'appelle comme ça, la rue des pirogues de Bercy. On a retrouvé des pirogues, mais alors malheureusement c'est pas des pirogues romaines, ni gauloises, c'est des pirogues qui datent je crois du néolithique ou du paléolithique, elles sont beaucoup plus anciennes, on n'a pas retrouvé de bateaux de l'époque de l'Antiquité, mais bon, ça n'a pas dû bouger beaucoup avec le temps. Au musée de Marseille vous en avez, qui montre bien comment ça a évolué, comment ils attachaient d'abord les morceaux de bois pour fabriquer la pirogue avec des cordes, puis avec du chanvre, puis avec des clous, enfin, le musée de Marseille et l'histoire de Marseille est hyper bien fait pour ça. Si vous passionnez pour les bateaux, allez plutôt à Marseille qu'à Bercy pour voir à quoi ressemblaient les pirogues. Quoi.
Alors avec vous, on découvre vraiment Lutèce, on a découvert les termes, donc ça c'est pour l'hygiène et la sociabilité. Le forum, c'est aussi pour discuter, mais aussi pour faire ses courses, c'était un marché. Mais alors on s'amusait comment quand on était lutécien? Il y avait des lieux de divertissement, des arènes, un amphithéâtre?
Ah bah oui, c'était le lieu le plus couru, c'est évidemment les arènes de Lutèce.
C'était qui ont où été, ça?
Alors sur la rive gauche, hein, près de la ville, mais un peu à l'écart de la ville, pour une simple raison, ils n'étaient pas bêtes, c'est un peu comme le Parc des Princes ou le Stade de France, on était un peu à l'extérieur pour permettre la circulation, parce que les choses se remplissaient pour le spectacle, donc d'un coup il y avait un afflux massif, savoir que Paris compte... Paris c'est une petite ville encore une fois, hein, je le dis, durant l'Antiquité, c'est pas la grosse capitale d'aujourd'hui, donc les arènes, elles sont pas immenses à Paris, elles peuvent contenir toute la population de la ville, à savoir entre 10 et 15 000 personnes. Paris, c'est pas plus de 10 000 personnes.
Et on y voyait quoi comme spectacle, Laurent Deutsch?
Alors, ça pouvait être du théâtre, ça pouvait être des grands textes avec Plaute, Sénèque, des choses comme ça. Encore que ça, c'est plus vers le théâtre qu'il faut aller si on veut ce genre de spectacle littéraire.
Il y avait des gladiateurs aussi.
Aux arènes, voilà, c'est surtout des gladiateurs. Ouais. C'est surtout les gladiateurs qui, le matin, se tapaient contre des animaux. Hein, c'est comme ça qu'ils s'entraînaient, en quelque sorte. Ou alors en dégommant quelques esclaves. Mais bon, ça, c'était un peu facile. Hein, c'était l'échauffement. Hein, c'est horrible. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Et c'est l'après-midi où il y avait vraiment là, le repas de choix, quoi. Le spectacle de choix, le combat des grands gladiateurs qui se fritaient et qui étaient célèbres. Et d'ailleurs, le peuple réclamait souvent que les gladiateurs soient épargnés parce que ça devenait des vedettes, quoi. C'était des superstars. Donc on voulait pas que le je sais pas, le tel ou tel mirmillion soit égorgé et tué alors qu'il s'était bien comporté sur le terrain.
Est-ce qu'il y a des traces de ces lieux de divertissement qu'on peut encore voir aujourd'hui dans Paris?
Ah bah oui, les arènes ont été miraculeusement sauvées de la destruction en grande partie grâce à Victor Hugo au milieu du 19e siècle, et on peut en voir une bonne partie. Enfin, il y a un tiers qui a été préservé, et on peut se figurer à quoi ça devait ressembler pour l'époque. Même si là encore, les arènes de Lutèce, elles sont pas extraordinaires. C'est pas les arènes de Nîmes ou le théâtre d'Orange ou les arènes de Lyon, quoi. C'est plus petit. Lyon, c'est 6 fois plus gros que Paris à l'époque. Ouais. Faut s'imaginer que Paris, c'est pas pour nous, hein, les Parisiens. C'est une ville extraordinaire. Hein, tout est parti de Paris, extrêmement centralisé. Eh bien, ça n'était pas le cas durant l'Antiquité, quoi. C'était plus du côté de Lyon qu'il fallait se tourner pour voir la vraie capitale.
Et c'est bien de le dire et de le rappeler. Vous qui êtes comédien, Laurent Deutsch, est-ce que vous êtes sensible à l'acoustique de ces lieux-là? Parce que souvent, on dit que l'acoustique des amphithéâtres ou des arènes construites il y a aussi longtemps était quasi parfaite.
Ouais, elle était très bonne parce que l'avantage quand on fait un mur arrondi, eh bien évidemment au niveau de l'acoustique, le son n'est pas arrêté et il peut tourner. Il y a d'autres exemples un peu marrants. Si vous allez du côté du prieuré Saint-Martin-des-Champs, pardon, là je fais un bond dans le temps, je vais nous amener du côté de l'an 1000 au Moyen-Âge, mais les moines recevaient les pestiférés et les malades dans une chapelle qui était en rond, qui était arrondi, et le malade était à l'autre bout. Et en chuchotant, on arrivait à l'entendre parce que grâce à la rotondité de la pièce, eh bien, il pouvait entendre sa confession sans être à son contact. Et donc, c'est vrai que la rotondité, ça date des Romains, on s'est rendu compte que pour l'acoustique, c'était parfait.
Ça pourrait être pas mal pour le coronavirus.
Oui, parfait. Ouais, voilà.
Quelques secondes pour nous dire, quand Lutèce devient Paris, à quelle époque et pourquoi ça s'appelle Paris?
En gros, Lutèce va devenir Paris quand l'influence romaine va moins se faire sentir. Quand Rome va commencer à se faire défoncer sous les coups de boutoir répétés d'envahisseurs venus du nord et de l'est, tout un tas de tribus et de germaniques, dont les Francs, qui vont avoir un grand avenir évidemment pour nous, eh bien c'est là où les gallo-romains de Paris vont reprendre leur destin en main, et cette Lutetia romaine va devenir la Civitas Parisorum. On a retrouvé une date très précise sur une borne millière du 4e siècle, à peu près entre 304 et 307 après Jésus-Christ, où Lutèce ne s'appelle plus Lutèce, mais la Civitas Parisorum.
La ville des Parisiens,
la tribu celte du 3e siècle avant notre ère qui s'y était installée primitivement, comme si les Romains n'avaient plus de rôle à jouer, ils assuraient plus la sécurité, donc on allait les dégommer.
Merci beaucoup.
Merci.
Laurent Deutsch, c'est un bonheur de vous écouter pour prolonger ce plaisir. 3 balades dans Lutèce et au-delà, c'est dans le Parisien hors série en partenariat avec RTL. Et puis vous êtes au théâtre, vous jouez la romanesque, la folle histoire de la langue française. C'est dimanche, c'est au Théâtre de Paris, dimanche à 17h, lundi à 20h, et bientôt dans la curiosité pour vos meilleures histoires.
Avec quand vous voulez, et si vous voulez en savoir plus sur Paris. Oui. Comment
allez-y,
Thomas
allez-y. Non,
mais si vous voulez en savoir plus sur Paris, n'hésitez pas à vous connecter à ma chaîne YouTube.
Avec plaisir.
À toute berzingue, où je raconte l'histoire des villes de France à fond la caisse en 5 minutes, dont Paris. Donc voilà, donc en 5 minutes, vous allez tout savoir. Bon, ça sera moins développé, moins passionné qu'avec la curiosité avec vous, quoi, parce que vous n'y étiez pas, mais c'est quand même pas mal. Voilà, un bon
merci
complément
Laurent.
D'information.
Merci Laurent.
À bientôt.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.